L'écho du parquet. Musique et danse traditionnelle. L'émission qui met le feu au plancher.
Saison 3.
La, c'est pas les Scottish, ça, c'est une mazurka, ça. Oui.
Assez dur et que je pense pas que je vais y arriver.
Ah ouais, c'était rebuté parce que ça a l'air dur.
Ouais.
Okay. Et si quelqu'un avait jamais vu ni jamais entendu un violon, comment tu décrirais le son et l'apparence?
C'est un peu comme une guitare en plus petit. Et ça fait un bruit assez aigu, un peu comme un moustique qui fait plusieurs notes.
J'ai commencé directement par les musiques traditionnelles. C'est par ça et pour ça que je fais de la musique. Donc j'ai pas eu la transition et ça fait 7 ans que je fais du violon, donc j'ai débuté adulte, largement adulte.
Est-ce que t'as été impressionné, enfin comment dirais-je, t'avais peur de débuter le violon par rapport à la réputation de l'instrument qui est pendant des années tu vas produire des sons horribles avant d'arriver à faire quelque chose?
Bah forcément j'avais entendu dire que le violon était censé être l'instrument le plus difficile. Mais quand j'ai pris un violon dans mes mains, il y a quelque chose de logique que j'ai trouvé, que j'avais pas forcément senti sur d'autres instruments, notamment le piano. J'arrive pas à trouver des mélodies à l'oreille au piano, alors qu'au violon, c'était tout de suite évident, sans que je sache dire pourquoi. Donc non, et oui, j'ai eu des moments horribles, mais ça a pas duré des années et des années.
Alors, ben moi, c'est Magali Calpena, je suis luthière violon, violoncelle, alto, et je suis au son continu, du coup, pour cette occasion, pour présenter mes instruments. Alors, moi, je suis d'une école formation purement française. J'ai fait l'école de lutherie de Mirecourt. Après, mon champ d'action, on dira que je suis plutôt dans pas mal de musiques différentes, parce que je véhicule dans beaucoup d'expositions un trad irlandais, yiddish, manouche. Donc je couvre quand même un gros panel et on va dire que la musique classique c'est pas ce que je fais le plus, mais j'ai aussi pas mal de musiciens en musique classique qui viennent me voir, donc c'est assez ouvert en fait.
Est-ce que le violon trad c'est le même violon que celui qu'il y a dans la musique classique? Est-ce que c'est le même instrument?
Complètement, en fait. Et d'ailleurs, c'est né, la musique classique est née de la musique trad, finalement. Je dirais ça, il y en a qui vont me jeter des casseroles, peut-être à la tête. Mais concrètement, c'est le violon, c'est un instrument qui est populaire hein, et qui a toujours été dans la musique populaire. On peut le retrouver dans tout ce qui est tzigane, tout ce qui est musique arabe. Tout ce qui est, vraiment, il y en a partout, en fait, du violon, si on regarde bien. Et vraiment, musique populaire, quoi. Donc, à la base, je pense que c'était plutôt populaire. Et il y a des grands compositeurs qui se sont intéressés à ça dans des époques précises, quoi.
D'accord. Comment ça se fait qu'un instrument aussi petit soit aussi sonore ?
En fait, il y a quelqu'un derrière qui a bien conçu, quoi. C'est-à-dire que... alors bon, je ne parle même pas du luthier à la base qui est là devant vous, mais il y a un gars qui est très connu, hein, c'est le people attitude, on va dire, du violon. Hein, on en entend tous parler, il y a Stradivarius qui a quand même beaucoup œuvré pour figer un petit peu cet instrument qui est quand même assez optimisé. Après, honnêtement, voilà, c'est une bombe acoustique, quoi. Et nous, on essaye de travailler au mieux cette bombe acoustique avec les dessins qui ont été faits par cet homme-là, et on a essayé de décliner pour continuer à améliorer l'instrument. L'instrument a eu des améliorations parce qu'avant on jouait avec des cordes boyaux et maintenant on joue avec des cordes qui sont beaucoup plus tendues, donc ce qui fait que ça va projeter un peu plus. Mais du coup, l'instrument c'est une boîte dynamique. On va dire c'est la table d'harmonie qui est sur le dessus, où il y a le chevalet qui est posé avec les cordes, il y a la vibration qui va passer dans le chevalet, il y a ses petits pieds qui vont bouger. Dessous la table, elle va faire comme un effet de trampoline, ça va osciller. Dessous vous allez avoir l'âme, qui va être la pièce qu'on entend souvent parler du violon, parce qu'elle est très centrale, elle permet de modifier en fait la sonorité, d'adapter en fait au son qu'on va avoir définitif. L'âme, c'est un bout de bois qui fait la transmission du son entre la table et le fond. Et ce petit morceau de bois, il va donner l'onde sonore qu'a pris la table pour pousser le fond et donner de la dynamique pour que ça puisse remonter et que ça oscille. Donc c'est un double trampoline avec un poteau au milieu qui transmet, quoi. Voilà, si je dois banaliser un petit peu. Et c'est ce qui va faire que la dynamique va prendre de l'amplitude et ensuite va sortir et pouvoir être projetée à l'extérieur de l'instrument. Après, c'est vrai que le montage, donc ce qu'on appelle montage en lutherie, c'est l'âme, le chevalet et la façon de pouvoir tout positionner sur l'instrument dans la finalité, va faire que suivant chaque personnalité de luthier, vous allez trouver des différences. Il y a des luthiers qui vont sonner plus ronds, d'autres qui vont sonner plus clairs, voilà. Et ça va permettre d'optimiser en fait l'instrument.
Juste, c'est quoi comme bois ? Alors, c'est toujours le même ?
Généralement, c'est toujours le même. On a de l'épicéa sur la table. Donc, concrètement, c'est le sapin de Noël pour vraiment banaliser. Après, vous avez de l'érable sur les éclisses. Les éclisses, c'est l'épaisseur de l'instrument. Enfin, c'est la hauteur de l'instrument. Le fond et le manche. Et ensuite, on a de l'ébène pour la touche. Donc là, on commence à avoir des propositions maintenant parce qu'on a des technologies qui s'affinent un petit peu pour proposer autre chose que de l'ébène. Avec des bois qui sont compressés, parfois des pissés à compresser, on peut avoir ce genre de choses-là, ou synthétiques. Mais il y a des choses qui fonctionnent un peu moins bien. Donc voilà, c'est principalement les trois bois qu'on va retrouver, érable, ébène, épicéa. Et après, ça va moduler suivant si on a envie de faire des expériences ou pas, quoi. Il peut y avoir du noyer, il peut y avoir du peuplier, mais ça, c'est plus pour les altos, c'est plus fréquent. On va dire que sur les violons, les fabricants ne risquent pas trop la fantaisie.
Il a un son un peu moins puissant, il projette moins, mais il a un timbre qui est vraiment intéressant.
Ouais. Ouais, tu vois, j'aime bien la douceur qu'il a, ce son. Après, c'est particulier, hein, c'est chaque musicien.
Oui, carrément.
Donc après, moi personnellement, j'ai choisi d'aller m'orienter vers ces musiques qui sont pas forcément classiques. C'est un milieu qui est un peu différent au niveau du fonctionnement. Et donc du coup, voilà, c'est juste... Mais grosso modo, ils cherchent tous la même chose. Hein. C'est un instrument qui est rond, puissant, qui va projeter. Et après, suivant le milieu musical où on évolue, on va avoir des exigences plus ou moins pointues sur ce qu'on veut. Donc des gens qui vont avoir au niveau musique classique, ils vont forcément aller chercher quelque chose où ils vont plus aller creuser vraiment dans l'instrument. En jazz manouche, c'est pareil. Ils vont aller creuser énormément parce que c'est des gens qui ont une grosse base classique. Et ensuite, en trad, c'est plus quelque chose de... Voilà, il faut que ça soit... Il faut que tu aies un instrument qui soit direct, qui puisse être très réactif. Donc voilà. Voilà.
Bah ouais, tu peux entendre tes violons sonner de plein de manières différentes, du coup.
Ben oui, mais oui, en fait, suivant si c'est Pierre, Paul ou Jacques qui va essayer, ou Véronica, j'en sais rien, tu peux pas avoir le même son, quoi. Des fois, t'as tout et son contraire, quoi. Moi, j'ai appris à me détendre là-dessus, parce que au début, tu prends tout pour toi quand tu fais essayer tes instruments, ouais. Et tu te dis, voilà, oh là, tout ça, celui-là, ça va pas du tout. Et en fait, le lendemain, tu vois quelqu'un qui te dit, mais celui-là, je le trouve génial, quoi. Tu vois, ouais. Et là, tu te dis, ok, bon, on déconstruit tout, c'est bon, on touche à rien.
c'est non, pas moi.
Non, mais c'est un métier où on se remet beaucoup en question, donc forcément, voilà, on est attentif à ce que je dis aux musiciens.
Alors pourquoi je cherche un autre violon? Parce qu'en fait j'ai passé mon prix avec et j'étais obligée de prendre un violon récent, mais pas forcément, c'était pas forcément un choix. Et maintenant j'aimerais, c'est pour ça que je teste les violons aujourd'hui pour voir si j'ai un son qui me correspond mieux en fait. Voilà, voilà, c'est pour ça que je changeais.
Ça c'est un violon de Jeanne sur. Un modèle d'un luthier néerlandais du 18e. Et celui-là, il est tout neuf.
Je m'appelle Alexandre et je joue du violon.
Dans
Trinquedit et dans Le Plaque et dans d'autres projets. Voilà. Je pense pas avoir... De toute façon, j'ai choisi le violon vraiment petit. J'avais pas de culture musicale, donc c'est un peu un faux choix. Et j'ai continué à en faire parce que ça, c'est quand même un instrument qui a des modes d'expression hyper variés et où on fabrique tout dans le son.
Donc...
Bah, on fabrique la justesse, on fabrique le timbre, on fabrique le grain, tout le grain. Enfin, c'est, il y a une vielle à roue, voilà, ou une cornemuse. Il n'y a pas, par exemple, de possibilité de nuancer. Pour un accordéon, il n'y a pas de possibilité de jouer dans d'autres tempéraments que le tempérament égal. Il n'y a pas de possibilité de modifier vraiment le timbre. Un violon peut vraiment modifier beaucoup de choses, comme certains autres instruments. Mais... Donc moi, ça me convient bien pour ça, quoi. Et voilà, je pense que c'est pour ça que je continue le violon avant tout.
Ah non, physiquement, je trouve ça confortable. Je trouve ça inconfortable de donner des cours à des violons débutants, par contre. Non, non, c'est le son que ça fait quand on commence.
Moi, je suis pas d'accord. J'enseigne, enfin, je suis prof. Et je trouve que c'est un faux procès qu'on fait aux violons débutants. Et que souvent, même les parents nous disent « Ah, mais alors s'il va faire du violon, ça va être horrible. » Alors, on colporte un peu ce truc-là. Moi... très sincèrement, je ne ressens pas ça du tout dans les cours avec les débutants, les enfants. Si on prend le temps de poser les choses tranquillement, de poser le son, oui, c'est pas le plus beau son du monde, mais c'est pas dégueulasse du tout, quoi. Si on fait des petits airs adaptés à son niveau, on arrive à poser le son assez vite, je trouve. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à donner des cours à des débutants et à trouver des filons pour que ça se passe bien pour eux, quoi.
Bonjour, je m'appelle Pauline Rito et je suis luthière à Angers, dans le Maine-et-Loire. Et ma spécificité, c'est les violons, les altos et les violoncelles. Okay. Ben ouais, le violon, c'est très standardisé. On a des cotes à respecter plus ou moins en fonction des luthiers et des envies. Mais on a quand même remarqué que si on gardait les cotes qui ont été standardisées, les instruments sonnaient quand même vraiment bien et dans le long terme. L'alto est un peu différent. L'alto, il y a plusieurs tailles d'alto. Ça peut aller de 39,5, donc c'est la longueur de caisse, à 44 par exemple. Mais encore une fois, c'est bien de standardiser entre guillemets l'alto pour avoir un confort optimal, encore une fois, pour le musicien. Ouais, alors moi c'est vrai que je suis un peu mal placée pour en parler, mais j'ai des confrères qui essayent des choses, des instruments sans coin, des instruments démontables, et certains sont arrivés à des résultats plutôt satisfaisants, d'autres un peu moins. Après, c'est peut-être un peu plus facile dans le monde traditionnel d'avoir des instruments non standardisés que dans la musique classique, où effectivement, là, faut vraiment rester... sur la lutherie qu'on connaît, pour les orchestres, pour que tout soit aligné visuellement, etc. Mais dans le monde trad, on peut se permettre un peu plus.
Et du coup, les tiens ou d'autres, mais ça coûte combien un violon ?
Alors effectivement, là, ça va être les miens parce qu'il y a tous les prix. Moi, un violon, c'est 8 000 euros aujourd'hui. Ce qui reste abordable et accessible comparé à d'autres collègues qui sont plutôt aux alentours de 12 000 euros. Dans le monde classique, c'est plutôt ces prix-là que 8 000. Voilà, et après, un instrument d'étude, c'est plutôt aux alentours de 1 500, 2 000 euros, quoi. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup plus de demandes en alto dans le monde traditionnel, et tant mieux. De plus en plus de musiciennes, quand même, s'accompagnent à l'alto quand elles chantent. Ça a une autre puissance, plutôt dans la rondeur, la richesse. C'est très profond comme sonorité comparé au violon, qui peut paraître très clair, très aigu. Donc là, ouais, l'alto vraiment tend à se développer depuis ces dernières années. Ouais. C'est souvent quand même, mine de rien, des violons anciens, Mirecourt. Mirecourt, c'est la capitale de la lutherie française dans les Vosges. Des vieux petits instruments que les musiciens jouent. Ouais, c'est des vieux instruments, en fait, d'après-guerre. À Mirecourt, à l'époque, il y avait plusieurs entreprises où ils travaillaient à plusieurs sur un établi. Certains faisaient la tête, l'autre les éclisses, la table, etc.
À la chaîne,
voilà. Mais fait par des luthiers ou de temps en temps aussi semi-machines. Et c'est des instruments aujourd'hui qui sont très demandés dans les classes de violon en tant que violon d'étude. Ça fonctionne vraiment bien. Fara semblant de vous aimer, à la belle, les penseront pas.
Alors, je m'appelle David et je fais plutôt de la musique des Balkans, la musique de Roumanie, Bulgarie, Grèce et Turquie.
Je m'appelle Camille, je fais plutôt de la musique suédoise et bientôt plus de Centre-France.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi le violon comme instrument ?
J'ai regardé un violoneux jouer et je me suis dit, je veux ressentir ça dans mon corps.
Parce qu'il avait l'air de ressentir quoi ?
Ah, mais c'est moi qui ressentais quelque chose en le regardant. Et c'est pour la sensation physique et le répertoire qui allait avec, mais je sais pas, il y avait quelque chose de physique que je voulais expérimenter.
Oui, bah moi j'ai commencé par le classique quand j'étais gamin, et j'ai rencontré en fait les musiques des Alpes du Sud, donc le rigodon, quand j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. Donc ça m'a ouvert la porte sur les musiques populaires, et assez rapidement j'ai rencontré les musiques des Balkans, Roumanie, etc. Et ouais, c'est en fait moi dans le classique je m'y retrouvais pas totalement, quoi. Enfin, j'écoutais pas ça vraiment à la maison. Il y a plein de choses que j'aimais dans l'instrument, dans la pratique, etc. Mais vraiment quand j'ai rencontré la musique populaire, ça a été une baffe, quoi. Enfin. J'ai vraiment eu la chance de rencontrer ces musiques-là en plus sur un âge un peu bascule où vraiment je me suis dit mais en fait pourquoi je fais du violon ? Donc je suis allé voir mon proche, je lui ai dit ouais en fait je crois que j'ai plus envie de faire du violon. Il m'a dit je suis pas sûr, attends un peu, on va trouver un truc pendant quelques mois. Par chance c'est le même moment que j'ai rencontré la musique populaire, et en fait quelques mois après je lui ai dit bah, en fait je veux être musicien. Donc vraiment ça voilà. Ça a changé beaucoup de choses.
Est-ce que ça a changé ton jeu au violon ? Est-ce que tu as eu l'impression de devoir réapprendre ou envisager autrement les choses à partir du moment où tu es passé sur ce type de musique ?
Oui, il y avait Il y avait des choses qui me paraissaient plus évidentes, plus ergonomiques, on va dire. Après, ça s'est fait un peu en deux temps. Ça veut dire que j'ai un peu déconstruit des choses que j'avais apprises en classique. Je ne savais pas trop pourquoi. Mais après, en travaillant bien les musiques des Balkans un peu à fond, en fait, je suis tombé sur des os techniques sur lesquels la technique classique ne pouvait pas totalement répondre. Mais en fait, il y avait quand même un besoin de reconstruire quelque chose de technique qui était un peu poussé. Donc il y a eu de la déconstruction et au bout d'un moment le truc de dire bah, en fait non c'est la musique populaire mais c'est pas pour ça que c'est pas exigeant et qu'il n'y a pas un truc technique derrière quoi. En fait il y a vraiment y a des choses à bosser. La différence là, je trouve que c'est plutôt sur où est-ce que tu peux mettre le curseur quoi. C'est-à-dire en musique classique c'est dur de faire de la musique classique sans être sans avoir un gros niveau quoi. Enfin, et d'ailleurs quand on est au conservatoire avant de jouer quelque chose avec des gens avec les pianos ça met vraiment du temps quoi. En musique populaire il y a toujours du répertoire, quel que soit le répertoire il y a toujours un morceau qui est fait pour ton niveau quoi. Que t'aies 2 mois de pratique ou pas ou même moins ou que t'aies 10 ans, donc c'est un peu là-dessus que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est plus adapté à toutes les pratiques.
Juste un temps, une aparté, c'est quoi ce violon là? Tu peux nous le décrire et nous expliquer c'est quoi?
Alors c'est un violon que j'ai fait faire par André Sakalarides en 2011. On peut dire que techniquement c'est un quinton d'amour. Ça veut dire que c'est un violon avec une 5e corde, donc c'est la corde grave de l'alto. Et les violons d'amour, quinton d'amour, c'est le fait d'avoir des cordes sympathiques, donc comme sur la nickel harpa, donc c'est des cordes résonance qu'on joue pas mais qui résonnent avec l'instrument. Et c'était une demande que je lui ai faite voilà, d'avoir un instrument qui a à la fois cette résonance avec les cordes sympathiques et qui soit plus porté sur les graves. Parce que voilà, dans ma pratique, le violon, je me sentais un peu limité. Déjà dans la tessiture du violon qui descend jusqu'au sol seulement. Mais même sur la corde grave du violon, il manquait quelque chose, une assise un peu voilà, que moi j'ai vraiment besoin sur la musique plus moyenne-orientale. Et donc j'ai un volume de caisse qui est travaillé en conséquent et voilà, c'est un instrument qui ne quitte plus depuis. Voilà, c'est vraiment une commande, il y a mon nom dedans. Voilà.
Je m'appelle Olivier Pont. Voilà, mon premier Saint-Chartier, mon premier passage à Saint-Chartier, c'est en 1984, enfin, que j'ai découvert et exposé en pirate sur le stand d'un copain un violon électrique noir, parce qu'à l'époque je faisais des violons électriques. D'accord. Voilà, mon entrée dans la lutherie, curieusement, c'est par le violon électrique. Et faut que je fasse une petite diversion, en fait. Les tout premiers instruments que j'ai fait avant, c'était des vielles à archet, parce que j'avais eu une sollicitation alors que j'étais encore quasiment adolescent pour jouer dans un groupe de musique médiévale. En fait, j'avais pas le niveau. C'est parce que je faisais des trucs un peu d'esbrouf en irlandais, mais de faire des choses sérieusement dans cette musique-là, j'en étais pas capable. Mais néanmoins, j'ai fait ma première vielle à archet. J'avais 16 ans. Donc voilà, et je fais toujours des vielles à archet, en fait. Aussi.
Alors, pour parler du violon dans les musiques traditionnelles, précisément, est-ce que du point de vue soit du luthier, soit du musicien, c'est le même instrument, le violon pour les musiques traditionnelles ou pour d'autres styles musicaux, le classique notamment, le jazz, etc.
Pour moi, c'est le même instrument, parce que de toute façon, à chaque époque, il prend un vernis un peu différent, les gens lui donnent une direction, mais le violon, on va dire officiel, classique, actuel, ce n'est jamais qu'un des avatars de l'histoire du violon. Parce qu'il y a une époque où le violon, c'était un instrument qui n'était pas savant et qui se jouait en bande de violon, même si c'était une polyphonie complexe. Enfin, cette histoire-là, elle est aussi importante, et il y a des liens directs avec la musique traditionnelle. Donc le violon tel qu'il, du violonneux, il a autant rapport dans l'histoire savante que le violon savant, quoi. Et en plus, le violon dit savant, il est très différent de ce qu'il était à d'autres époques, qui étaient pourtant extrêmement sophistiquées. Moi, ce que je trouve important, et je le cite dans ma pub, c'est l'expression de l'archet. En fait, ben voilà, je vis avec une archetière, ça tombe bien. Mais souvent, je dis à mes stagiaires, le violon, c'est une boîte à cordes, une boîte avec des cordes qui sert à jouer de l'archet. Autrement, ben, on joue de la guitare ou de la mandoline. Mais l'expression, l'intérêt du violon, c'est l'expression particulière de l'archet.
Alors, je suis Nelly Poitvin, je fabrique des archets depuis plus d'une quarantaine d'années et je suis surtout spécialisée dans les archets pour la musique ancienne. Voilà, avec la particularité de commencer dès le Moyen-Âge et jusqu'à la fin du 18e, parce que c'est à ce moment-là qu'on a découvert le modèle, enfin qu'on a mis au point le modèle qui est couramment joué depuis deux siècles. Et voilà, moi je m'arrête là, je ne fais pas ces archets. Je fais tout ce qu'il y a avant, enfin pas tout ce qu'il y a avant, mais j'essaye de reconstituer quelques modèles qui existaient avant. Voilà.
Pour le violon ou pour d'autres instruments?
Tous les instruments qui se jouaient à l'époque. C'est-à-dire par la vielle médiévale, rebec, ça peut être lira da braccio aussi, et puis après violon, viol, violoncelle, alto, contrebasse, tout ça. Alors des acousticiens appelleraient ça une poutre, c'est-à-dire c'est un bout de bois. Les archetiers n'aiment pas qu'on dise que c'est une poutre. C'est un bout de bois tendu de crin, disons. Voilà, ça commence par ça. Ça, au départ, la forme d'un arc, c'est pour ça qu'on a appelé ça un archet. Ça naît probablement aux alentours du 9e, 10e siècle, en Asie centrale, c'est-à-dire un endroit qui rencontre le cheval et l'arc. La culture du cheval et la culture de l'arc. Et voilà, on a tendu du crin sur une baguette et on a commencé à jouer ça sur les instruments qui existaient à l'époque, des rebabs. On voit même des lyres dans le nord qui sont joués avec des archets au Xe siècle. Voilà, puis c'est petit à petit, l'archet est arrivé en Europe et puis était joué sur les instruments qu'on a créés un petit peu pour ça quand même, plutôt la vielle et tout ça, ouais. Bon. Et pour en arriver au violon, il y a un grand saut, parce qu'on est au XVIe siècle, on commence au XVIe siècle, avec un rôle du violon qui est... c'est pour ça que je me sens bien ici dans les musiques traditionnelles, c'est que le violon était quand même beaucoup utilisé pour faire danser. Et c'est pour ça que je propose des archets tels qu'on les faisait à l'époque, enfin tels qu'on les faisait, comme je peux les reconstituer, comme je peux imaginer que ça pouvait être fait avec des sources, mais sans jamais aucune certitude, des choses disons vraisemblables pour la danse, essentiellement pour la danse, quoi. Donc c'est là qu'est le lien avec les musiques traditionnelles.
C'est quoi un archet pour la danse?
Un archet pour la danse, souvent c'est un archet plutôt court, et qui permet de scander vraiment, enfin à l'époque, qui permet de bien faire passer les temps forts de la danse. Et c'est-à-dire que c'est un archer qui va marquer les temps forts, très différenciés des temps faibles. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est ce qui va donner l'impulsion, ça va être un peu la forme de l'archer, c'est-à-dire si en tirant l'archer, on a plus de hauteur de corde, plus de force qu'à la tête, qui va être toute fine et toute basse, on aura beaucoup moins de puissance, donc on va avoir des tirés plus forts que des poussées. Ça commence comme ça au départ. Après, il faut aménager tout ça pour donner de la sensibilité, de la finesse au jeu, quoi. On va pas faire que du poum, pim, poum, pim, poum, pim. Voilà. Et tant qu'on l'a joué en polyphonie, souvent il est resté assez court. Et il y a eu un moment en Italie où on a inventé la sonate et là on a commencé à faire des archers plus longs, plus fins, qui permettent un peu plus de sensibilité, plus de finesse dans l'archer. Puis avec des coups d'archer qui pouvaient être plus longs aussi, des liés. Et voilà, et petit à petit, donc on a eu une tête au départ, on n'a pas de tête par exemple. Voilà, le crin passe à travers la baguette. Et puis petit à petit, on a une tête qui se dessine, donc un peu plus de hauteur, donc moins de différence entre le tirer et le pousser. Et puis ça s'allonge, ça s'affine aussi parce qu'on a découvert, on a commencé à utiliser des bois exotiques, enfin assez tardivement, mais quand même, voilà, donc des bois qui arrivaient d'Amérique, qui étaient plus fins, qui était plus dense, donc on faisait des baguettes plus fines, qui permettaient un peu plus d'inflexion aussi dans le jeu, quoi. Et puis il y a la tenue qui change en même temps, quoi. De l'instrument tenu sur vraiment très bas dans le creux de l'épaule et presque verticalement, où on a vraiment beaucoup plus de différence justement entre le pousser et le tirer. On arrive à jouer un peu plus, on joue un peu plus sur la clavicule, puis vers l'épaule, et on a besoin de plus de longueur, quoi. Et puis une façon où on va chercher, au final, on va chercher à ne plus avoir de différence entre le tirer et le pousser, quoi. Enfin, c'est ce qu'on cherche dans la musique plus romantique, en fait. Avoir quelque chose de plus chanté, beaucoup moins pointilliste, quoi, en fait, comme vocabulaire. Mais avec ces bois trop denses, on avait un problème de déséquilibre. Donc, petit à petit, on a adopté, enfin, petit à petit, assez rapidement, je crois, on a adopté le pernambouc, qui était un bois beaucoup plus léger, enfin, pas beaucoup, quand même plus léger et quand même assez ferme, mais moins ferme que les bois les plus denses, mais voilà. Et ça a correspondu au modèle qu'on a mis au point au début du 19e, et après, on n'a plus bougé. Et on est resté avec ce bois, ce modèle. Jusqu'à aujourd'hui. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, avec des craintes pour les archetiers que le bois ne soit complètement interdit à la commercialisation.
Il n'y a vraiment aucun autre bois avec lequel on fait des archers actuellement, enfin des archers modernes.
On peut chercher. Enfin, moi, j'aime beaucoup chercher des bois et j'en ai fait d'autres. J'ai fait des archers modernes dans d'autres bois, mais bon, on peut avoir des alternatives. Et ça peut être intéressant pour certaines musiques. Hein, je veux dire, c'est l'intérêt de... Quand on change de bois, alors on a effectivement des qualités mécaniques qui font que ça ne va pas marcher tout à fait de la même façon avec un même modèle, mais on peut adapter le modèle. Mais surtout, ce qui va changer, c'est le timbre. Parce que chaque morceau de bois, chaque espèce de bois a vraiment une qualité de timbre.
Moi, c'est Basile, Basile Brémaud. Je joue du violon, je chante, je joue un peu de cabrette, et un peu de guitare électrique, depuis pas longtemps. La musique traditionnelle. Alors moi, j'ai commencé le violon enfant. En fait, quand j'ai 8 ans, ma mère a fait un déplacement professionnel en Arménie et elle a pu ramener d'Arménie un violon et des disques de musique arménienne. Et moi, j'habitais dans les Cévennes. Mais bon, bref, j'ai eu ce violon. J'ai commencé à jouer du violon dans une école de musique classique à Alès. Et en même temps, j'ai un peu découvert les musiques traditionnelles d'une tradition assez éloignée de là où je vivais, mais quand même, ça m'a un peu ouvert les oreilles sur les musiques à bourdon en particulier. Voilà. Alors, donc moi, c'était pendant longtemps, l'enfance, l'adolescence, c'était la musique classique au violon. Et en même temps, quand même, il y avait cette ouverture vers la musique traditionnelle, comme je t'ai dit. Par ailleurs, dans mon environnement familial, il y avait un goût pour les musiques anciennes et pour les musiques traditionnelles. Du coup, j'en entendais un petit peu à la maison, sans en jouer, parce que mes parents étant pas musiciens, il n'y avait personne pour me transmettre ça. Ça fait maintenant une trentaine d'années que j'ai articulé ma pratique musicale. Donc, je suis violoniste à la base, autour des traditions de violon du Massif Central. Alors, quand on parle des traditions de violon du Massif Central, alors il y a un terme qui revient très souvent, c'est les violons de l'Artense. Parce qu'effectivement, à cheval entre le nord du département du Cantal, le sud du département du Puy-de-Dôme, il y a un plateau qui s'appelle le plateau de l'Artense, et qui coïncide au niveau, c'est une aire culturelle, où il y a eu une pratique très dense du violon qui a été documentée à partir des années... Alors vraiment les premiers documents qu'on a, c'est des enregistrements de la fin des années 40. C'est les premiers documents enregistrés qu'on a qui témoignent de cette tradition de violon pour une région qui est un petit peu limitrophe à l'Artense, c'est-à-dire pour le plateau du Cézallier, qui est voisin du plateau de l'Artense, hein, qui est plutôt dans le Cantal-Puy-de-Dôme, mais plus à l'est. Voilà, ça c'est les premiers documents. Mais à partir des années 70, là, il y a un grand mouvement de collectage des musiques traditionnelles qui s'opère partout en France et en Europe. Et une des grandes découvertes de ce mouvement de collectage pour le centre de la France, c'est ces traditions de violon, avec donc des densités de pratiques très très fortes qui sont remarquées, parce qu'il y a des dizaines, voire pas loin de centaines de musiciens dont la pratique est attestée à l'échelle de quelques cantons. Donc sur le plateau, on dit le plateau de l'Artense, c'est un peu le cœur de cette zone-là, mais évidemment c'est une tradition. Enfin, c'était des pratiques qui débordaient débordaient du plateau de l'Artense proprement parlé, pour aller vers le Nord Cantal, le Sud Puy-de-Dôme et une partie de la Corrèze. Donc voilà, moi ça m'a fasciné. Alors, ce qui m'a fasciné là-dedans, bon, déjà moi j'avais un attrait pour les musiques traditionnelles et par ailleurs je pratiquais déjà le violon. Et donc venant donc du nord du Languedoc, des Cévennes. C'est cette recherche donc de tradition musicale associée à l'instrument que je pratiquais qui m'a emmené. Alors j'ai fait des sondages un peu quand j'étais adolescent, j'ai fait des sondages un peu dans les Alpes, dans les traditions de Rigaudon, mais assez vite j'ai découvert des musiciens qui pratiquaient la musique de violoneux de l'Auvergne dans une association qui s'appelle les Braillots dans le Puy-de-Dôme, et là ça a été le coup de foudre musical, donc j'ai continué à creuser cette musique-là, parce que il y a une pratique qui était d'une très forte densité localement, ce qui fait qu'il y avait un style musical qui s'était développé, qui était très spécifique et avec des caractéristiques vraiment associées aux possibilités qu'on trouve sur mon instrument, l'instrument que je pratique, donc le violon. Ce qui fonde une communauté, c'est quand même si c'était une pratique individuelle, c'est attester que les musiciens, entre eux, ils se connaissaient bien et ils se fréquentaient et ils s'observaient, ils se piquaient des choses ou ils s'échangeaient des choses, suivant comment on présente le truc. Et quelquefois, à de rares occasions, il y a des attestations de jeux où ils se retrouvaient à deux, voire trois musiciens à jouer. Les premiers enregistrements qu'on a, je parlais des enregistrements qui ont été faits dans le Cézallier à la fin des années 1940, juste après-guerre, c'est deux musiciens qui jouent ensemble. C'est Alexandre Savigna et Antoine Pécoal, je crois, c'est son prénom. Pécoal, mais je ne suis plus sûr du prénom. Et là, ils jouent à deux. Et donc, ils font ce truc qui a été décrit par plein de musiciens qui jouaient à une octave d'écart quand ils jouaient à deux. Un dans les aigus, un dans les graves. Mmh. Disons que, en fait, quand on regarde le répertoire que mettent en œuvre les violoneux, par exemple sur le plateau de l'Artense, il n'est pas complètement original, d'accord ? Il n'est pas déconnecté de l'ensemble des traditions musicales qui entourent l'Artense. Donc, il y a une base musicale qui est commune, en fait, à plein de parties du Massif central, de l'Auvergne et du Limousin, où, si on parle de la musique à danser, les gens ils vont connaître les mêmes bourrées, ils vont chanter les mêmes refrains de bourrées. Donc là, moi, je pense que c'est vraiment la densité de pratique localement qui a fait émerger quelques caractéristiques musicales liées à cet instrument. On va rencontrer certains styles de jeu qui sont quand même assez spécifiques à ces traditions de violon. C'est par exemple en Auvergne, on va rencontrer des gens qui disent on joue le style coulé. Ça se caractérise par des articulations à l'archer, où on va utiliser des longs coups d'archer. On va généralement faire rentrer toutes les notes d'une même mesure dans un seul coup d'archer, donc où l'articulation, le phrasé, va beaucoup se faire par l'ornementation à la main gauche, plus que par l'articulation à l'archer à la main droite. Après, évidemment, par ricochet, une fois que je me suis intéressé à ça, bon, le fait est que le violon, c'est un instrument qui a eu une diffusion très large sur tous les territoires, surtout à partir de la moitié du 19e siècle. Parce qu'il y a deux facteurs qui favorisent le développement du violon dans la musique traditionnelle, dans la musique populaire, qu'elle soit rurale ou urbaine d'ailleurs. C'est d'une part le développement à Mirecourt, donc dans l'est de la France, dans les Vosges. D'une pratique de facture instrumentale manufacturée, c'est-à-dire que il développe un processus de fabrication d'instruments qui permet de fabriquer des instruments en grande quantité et donc à faible coût. Et à côté de ça, en parallèle, se développe la distribution par correspondance, c'est-à-dire que c'est aussi l'essor des grands catalogues de vente par correspondance, Manu France à Saint-Étienne, et il y en avait d'autres, mais bon, on connaît évidemment dans la région, on connaît beaucoup Manu France. Et en fait, ces catalogues, ils ont diffusé les instruments de musique, ils les ont rendus très accessibles pour les gens qui habitaient dans les territoires ruraux, parce qu'ils pouvaient les commander. Sur le plateau de l'Artense, la pratique du violon était tellement développée qu'à un moment donné, on trouvait les fournitures pour le violon, les cordes, la colophane, les choses, les consommables, dans des magasins, chez l'horloger ou chez le boucher du village. Il y avait de quoi se dépanner quand on jouait du violon, quoi.
Et tu saurais dire quand, à peu près ?
Ça, alors le pic de cette pratique, c'est la fin du 19e siècle, début 20e. Là, c'est vraiment le climax, quoi, de cette tradition, là où il y a le plus de gens qui pratiquent. Et localement, c'est pratiquement la seule tradition instrumentale dans cette période-là. Pendant à peu près 80 ans, 90 ans, ça a été pratiquement la seule pratique instrumentale, c'est le violon. À côté de ça, on connaît des chanteurs de musique traditionnelle, que ce soit de chant à danser ou pas à danser, mais pas tellement d'autres instruments. Le violon, la pratique du violon, elle tombe un peu en... Elle périclite un petit peu, elle est passée un peu de mode, en fait, à partir de... les années 30, et puis, bon, il y a eu un regain d'intérêt pour le violon pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait beaucoup de musiciens locaux qui pouvaient jouer pour les bals clandestins. Et puis après-guerre, pratiquement, c'était fini. Parce qu'après-guerre, les gens, ils ont voulu écouter de la musique d'accordéon. Et donc là, le violon est complètement tombé en désuétude. Les musiciens qui ont été enregistrés dans les années 70, ils avaient pratiquement tous cessé leur pratique publique dans ces années-là, après Seconde Guerre mondiale. Ils ont cessé d'être demandés pour la pratique publique. Certains ont continué à avoir une pratique de l'ordre familial, intime. Et certains ont carrément cessé de pratiquer l'instrument. Dans les années 70, il y en a certains, ils ont été sollicités par des musiciens qui venaient, par des jeunes musiciens qui venaient les collecter. Pour certains, ils avaient arrêté de jouer depuis 30 ans. Mais par ailleurs, il y a des attestations de gens qui jouent du violon dans les musiques populaires, en milieu rural comme en milieu urbain, à peu près dans toutes les régions de France. Donc moi, par effet ricochet, après, je me suis aperçu que dans les Cévennes, il y avait aussi eu des violoneux. La différence, c'est qu'ils étaient isolés, c'est-à-dire qu'ils étaient assez autodidactes et qu'ils n'étaient pas pris dans une émulation collective. Et donc, voilà, c'était des jeux très personnels, en fait.
Arnaud Boisset, donc, comment je suis arrivé dans la musique? Ça, c'est dur à dire. Du coup, à la maison, il y avait quand même quelques petits instruments, comme une petite flûte, la flûte qu'on a tous au collège. Il y en avait une avant que je sois au collège. J'avais un harmonica, un petit piano électronique. Et du coup, je bricolais un peu dessus. Et à l'adolescence, voulant devenir star de rock, je me suis mis à la guitare. J'ai appris d'oreille, surtout avec les cassettes de Nirvana et de d'autres groupes.
Après vient le violon.
Et après vient le violon un jour, après de nombreuses années, quand j'avais peut-être 25 ans, aux alentours de 25 ans. Du coup, le violon, il est venu après un rêve, alors que le violon, je m'en foutais complètement. Ça m'avait jamais... Enfin, je trouvais ça... J'avais l'image du violon classique. Un truc complètement ringard. Enfin, pour moi, c'était complètement ringard, le violon. Et une nuit, va savoir pourquoi, je fais ce rêve où je joue du violon. Alors... J'avais un archer qui devait être à peu près long comme une brosse à dents.
C'était un rêve un peu surréaliste.
Ouais. Et je jouais. Et c'était tellement bon. C'était tellement... ça se faisait tellement tout seul que c'est... je sais pas, c'était génial. Du coup, après, pendant des mois, ça m'a hanté. Et puis un jour, du coup, je m'y suis mis. J'en ai acheté un violon de merde dans un magasin de musique. Un truc qui a été fabriqué en usine, sûrement. 150 euros la housse, le violon, l'archer, la colophane, voilà. Donc je suis allé voir les violons du Rigaudon, j'ai pris des cours avec Michel Favre, qui en donnait à Gap, et puis un peu après, je suis rentré dans le groupe, et j'ai mangé du répertoire, Et de là, je suis rentré dans le monde un peu du trad. Il y a plusieurs projets dedans, dont les violons du Rigaudon. Voilà. Et c'est les violons du Rigaudon qui sont à l'origine de la compagnie, quand même. Okay. Pourquoi le violon ? Ben parce que dans les Hautes-Alpes, dans le Dauphiné, y a la tradition instrumentale, ce qu'on en connaît, c'est beaucoup lié au violon. C'est pas évident de la faire sonner comme on aime la faire sonner dans la compagnie, avec d'autres instruments aussi. C'est pas... Eh ben, comment exprimer ça ? Disons que le violon, il prête à... Il se prête bien au rigaudon. Alors, c'est le côté bourdonnant avec les doubles cordes, le côté qui rappe, le son qui racle un peu. Il y a le côté aller-retour de l'archer, qui fait que y a un certain groove qui est plutôt sautillant. Enfin, faut voir la danse du rigaudon faut connaître la danse pour comprendre.
Ouais, mais un petit côté
tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic comme ça, où du coup avec le violon c'est facile de le faire groover. Les violonneux ?
Ouais.
Bah, c'est des paysans, c'est des... ceux qui sont collectés, ouais. Surtout des paysans, je crois. Qui jouaient, qui avaient appris avec quelqu'un d'autre. Émile Escal, c'était avec le curé du village, qui avait fabriqué des violons à tous les petits du village.
C'était le curé qui fabriquait les violons ?
Ouais. Ouais, il travaillait un peu le bois, il avait fait des violons en mélèze. Il y en a beaucoup qui se sont fabriqués leurs propres violons. Hein.